Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ces derniers temps, un texte a fait énormément parler de lui. Il s'appelle le traité d'Aix-la-Chapelle. Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel l'ont signé il y a une semaine. Il renforce les liens entre nos deux pays, le fameux couple franco-allemand sur le plan économique, diplomatique et militaire. Ce traité, il a généré toute une série de fantasmes complotistes des plus délirants. On a entendu dire qu'on allait rétrocéder l'Alsace et la Lorraine, que la langue administrative de la région allait être officiellement l'allemand. Bref, le texte a été enfoui sous une avalanche de n'importe quoi. Résultat, on a finalement assez peu parlé du fond et des soucis bien réels que pose le traité. Car derrière les élucubrations de certains, il y a de vraies questions. Est-ce que notre relation avec l'Allemagne ne serait pas déséquilibrée ? Est-ce que nous ne sommes pas en train progressivement de céder du terrain, notamment dans le secteur crucial des droits sociaux ? Pourquoi est-ce que ce genre de texte, qui aura des conséquences lourdes et durables sur notre politique, se fait sans aucune consultation du peuple ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre réflexion, elle a notamment été alimentée par la lecture d'un texte au titre un poil provocateur, Macron concède, Merkel empoche. C'est l'eurodéputé Emmanuel Morel qui l'a signé, c'est un ancien du PS qui l'a quitté pour lancer un nouveau parti à gauche. Alors indépendamment de ce que nous pouvons penser de sa prise de position, ça nous semblait intéressant de creuser cette parole. Je suis donc allé à sa rencontre et je lui ai demandé ce qui faisait que selon lui, la relation franco-allemande est déséquilibrée.
Elle est incontestablement déséquilibrée, au moins d'un point de vue économique. Parce que l'Allemagne a son propre agenda économique et social. Elle est parvenue à imposer, faute de résistance française, sa conception de la politique monétaire et de la politique budgétaire à toute l'Union européenne. Elle est déséquilibrée aussi politiquement, parce qu'en France, il y a une sorte de mythification de l'amitié franco-allemande, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne. Hein. Et au nom de cette amitié, on renonce à mener des batailles ou à construire des rapports de force. Et c'est ça, moi, que je regrette. Évidemment, je ne suis pas germanophobe, au contraire, moi, je suis germanophile, je parle allemand, je connais très bien la culture allemande, et je sais l'importance de ce pays dans la construction européenne. Mais ce que je pense, c'est qu'on ne doit pas être omnubilé par le seul partenaire allemand, qu'il y a d'autres pays qui comptent, avec qui il faut aussi travailler, et surtout qu'on ne peut pas systématiquement concéder à l'Allemagne ce qu'elle veut et ne jamais nous revendiquer, notamment sur les questions politiques et sociales. Donc là, oui, il y a un vrai déséquilibre, et ce déséquilibre, il entraîne une déstabilisation de la construction européenne. Parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui est très fragile, dont les bases sont progressivement remises en cause, et c'est en grande partie lié à la politique menée depuis 10-15 ans, qu'on pourrait qualifier d'ordo libéral, c'est comme ça qu'on dit, hein, et qui, à mon avis, à terme, non seulement détourne les gens de la construction européenne, parce qu'ils se reconnaissent pas dans un espace qui était censé être un espace de coopération et de solidarité, et qui est plutôt quand même un espace de compétition et de concurrence, mais qui en plus ne voit pas bien où va l'Europe.
Ce déséquilibre, il est cristallisé quelque part, on pourrait dire, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est en cours de signature, qui a été signé le 22 janvier. Derrière, on va dire, le bruit médiatique qui a généré le traité avec tout un lot de fantasmes plutôt germanophobes, justement, sur des velléités d'annexion de l'Alsace-Lorraine. Enfin, on a entendu tout et n'importe quoi. Derrière ce traité, il y a une réalité qui est justement la symbolisation de ce déséquilibre que vous décriviez, avec d'un côté la France qui fait des concessions sur le plan diplomatique et militaire, et l'Allemagne qui n'en fait aucune sur le plan économique.
Oui, mais alors, c'est tout le problème du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est que l'extrême droite droite et un certain nombre de complotistes se sont emparés de ce texte en racontant vraiment n'importe quoi, des contre-vérités, des fantasmes, des délires, ce qui a obligé les gens rationnels à relativiser, à nuancer, sauf que tout ce qui est rationnel et nuancé est moins entendu que les délires et les contre-vérités. Mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de points qui sont problématiques. La stratégie de Macron dans cette affaire, ça a été précisément de montrer du doigt l'extrême droite et les complotistes en disant « ils racontent vraiment n'importe quoi », mais pour occulter le débat nécessaire sur le traité lui-même. Parce qu'en effet, le traité pose un certain nombre de questions, et le principal problème, vous l'avez soulevé mais j'y reviens, c'est que nous, Français, concédons un certain nombre de choses sur tout ce qui est défense et diplomatie, mais qu'en retour, l'Allemagne ne prend aucun engagement sur le desserrement des contraintes économiques, et notamment budgétaires. Et donc finalement, on est complètement perdant. C'est-à-dire qu'on concède, Macron concède, Merkel empoche, et on se retrouve avec un traité qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on essaie de nous vendre, l'équivalent du traité qui avait été signé par De Gaulle et Adenauer, qui là, pour le coup, témoignait d'une forme d'égalité et de respect, mais c'est un traité, celui signé par Macron, qui consacre un rapport de force défavorable. C'est pas seulement qu'il le consacre, c'est que nous n'avons rien fait, nous, la France, pour qu'il en soit autrement. Et moi, c'est ça que j'ai dénoncé. Je pense que toutes les questions qui sont aujourd'hui posées par le traité, elles devraient être dans le débat public. La question de la défense européenne sous l'égide de l'OTAN, c'est-à-dire sous l'égide des États-Unis d'Amérique, je m'excuse, mais ça pose problème. Et je ne crois pas que les Français désirent ça. C'est peut-être l'option choisie par les Allemands qui sont très proches des pays de l'Est, les pays de l'Est étant, on le voit au Parlement européen toutes les semaines, ça je peux en témoigner, obsédés par la Russie. C'est pas forcément notre position à nous, Français, dont l'histoire, la tradition diplomatique est complètement différente. De la même façon, sur la question du siège de sécurité à l'ONU, moi je conçois que certains Européens se sentent un peu circonspect à l'idée que seule la Grande-Bretagne et la France aient hérité d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est le fruit de l'histoire, et on peut pas juste en disant « ah bah oui, c'est vrai, ça pose un problème, ça serait mieux que l'Union européenne siège à la place de la France ». Ça, c'est quand même des sacrées questions qui méritent un débat public, un débat parlementaire, mais aussi, c'est ça que c'est me semble le plus important, un débat avec les Françaises et les Français. C'est pour ça que moi je suggère un référendum. Pourquoi ? Parce que si on veut intéresser, moi je fais confiance à l'intelligence des gens et à leur capacité à analyser, à lire des textes. Bah là, pour le coup, on a un texte qui est important sans être décisif, mais qui mériterait que les électrices et les électeurs, enfin les citoyens, quoi, tout simplement se saisissent de questions qui concernent leur avenir. Donc oui, il y a un déséquilibre parce que dans le traité, il n'y a rien sur les questions économiques. Nous, ça fait la France n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne. Si vous voulez, l'Allemagne a besoin d'un euro fort pour rassurer les vieux épargnants qui sont l'électorat traditionnel de la CDU et de la CSU et de Madame Merkel, parce que c'est un pays vieillissant et c'est un pays d'épargnants. Nous, en France, on n'a pas du tout la même problématique. On est plus dynamique démographiquement. On a besoin d'un redressement industriel, d'un redressement productif qui n'a pas lieu depuis un certain nombre d'années et qui est mis à mal par une politique monétaire et budgétaire qui nous est défavorable. Voilà, donc il y a rien là-dessus dans le traité, il y a rien sur l'harmonisation sociale, qui est quand même le principal problème de l'Europe aujourd'hui, parce que vous avez une concurrence généralisée entre les travailleurs au nom de la libre circulation qui pose énormément de problèmes. Il y a rien sur les questions de régulation bancaire ou des flux financiers qui posent quand même question. Il y a rien sur l'harmonisation fiscale, en tout cas il y a pas de proposition concrète. Ça fait un traité qui est en effet très déséquilibré et qui prend une direction que je ne suis pas sûr que les Français approuveraient si on leur demandait leur avis. Donc voilà où est le problème.
Sur le traité, vous mentionnez notamment que dans la tribune que vous avez signée, qui a, on va dire, servi de prérequis à cette conversation, vous mentionnez notamment que la notion de convergence sociale ascendante disparaît quasiment dès l'entame du traité, c'est-à-dire qu'elle est mentionnée brièvement, je crois, dans le préambule, et que dès le premier article, la notion d'ascendance sociale, donc d'aller vers le mieux-disant social, disparaît totalement.
Ben c'est bien le problème, c'est que nous, eurodéputés progressistes, on se bat pour ce qu'on appelle l'harmonisation sociale par le haut, c'est-à-dire à la fois revenir sur les effets néfastes de la directive travailleurs détachés, mais aussi penser un système qui permette l'augmentation des salaires en Europe. Sauf que c'est exactement le contraire qui se passe. Donc si on n'est pas capable de dire que on est pour des convergences ascendantes, c'est-à-dire une harmonisation notamment salariale par le haut, on va au-devant de graves déconvenues, parce qu'on va au-devant d'une précarisation générale. Je parle des salaires, je pourrais parler aussi du droit du travail, qui est remis en cause quand même dans beaucoup de pays européens, y compris le nôtre. Je pourrais parler des retraites, où là aussi il y a une offensive généralisée de ceux que j'appellerais les détenteurs du capital contre des systèmes de protection collective qui ont fait leurs preuves. Et si dans un traité qui est supposé avoir de l'importance, on n'est pas capable de pointer ce genre de difficultés, et donc cette urgence sociale, on ne répond pas à l'objectif fixé.
La façon d'adopter ce traité, la manière dont ça s'est fait, c'est assez symptomatique quelque part de la façon que peut avoir le gouvernement de prioriser les dossiers, on va dire. C'est-à-dire que on met à débattre des choses qui sont plutôt cosmétiques, des choses très concrètes, certes, qui sont importantes dans la vie des gens, mais qui restent cosmétiques, et les sujets de grande envergure, les sujets impliquant sur le long terme notre politique nationale et internationale, sont décidés en dehors de l'approbation ou non des Français.
Mais vous savez, ça, il y a quelques années, un essayiste célèbre, Emmanuel Todd, avait écrit un livre sur la post-démocratie. Et il pointait du doigt cette tendance qu'il y a chez les élites européennes. Et Macron, de ce point de vue-là, est un produit parfait. C'est la fusion de la noblesse d'État à la française et des élites néolibérales. Ils ont cette propension à décider des choses importantes dans l'entre-soi, et à laisser débattre des questions accessoires. Bah ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais on prend l'exemple du traité franco-allemand, on pourrait prendre, les traités de libre-échange en Europe, qui sont aujourd'hui négociés en totale opacité. Et il a fallu une mobilisation colossale des parlementaires, des ONG, des associations, par exemple, pour faire échec au TAFTA, le TTIP, le traité de libre-échange avec les États-Unis, mais qui revient là, qui est en train de revenir tranquillement. On l'a sorti par la porte, il revient par la fenêtre, et ça se fait sans jamais la consultation des peuples. Et d'ailleurs, les gens ont le sentiment, et à mon avis, le sentiment légitime, qu'on a des dirigeants qui craignent plus le verdict des agences de notation ou celle des marchés, plutôt que la colère des peuples. Or, cette colère, elle monte. Il y a un réveil des peuples partout en Europe, alors qui ne se traduit pas forcément par des choses très positives, mais qui, en France, en tout cas, compte tenu de notre tradition historique, pourrait, à mon avis, déboucher sur quelque chose de progressiste et d'égalitaire. Sauf qu'il faut que les gens soient associés. Ils ne le sont pas. Et cette tentation post-démocratique qu'on retrouve avec Macron, mais qu'on retrouve aussi finalement avec la Commission européenne, quand Juncker, avec une forme de candeur, explique que la démocratie s'arrête là où commencent les traités européens, vous voyez bien que là, on est sur une impasse qui ne peut déboucher que sur des crises graves et sur l'explosion de ce qu'on appelle les populistes. Expression pratique pour mettre dans le même sac des gens qui pensent totalement différemment, mais qui ont une vision, on va dire, nuancé sur la construction européenne, et pas naïve et pas exalté, et c'est ça le résultat. Donc il faut absolument couper court à cette tentation post-démocratique qui sert qu'une seule catégorie de personnes, en réalité c'est les gens qui ont le plus d'argent, qui eux ont intérêt, et j'irais même au-delà, les multinationales, toutes ces organisations qui n'ont que faire des règles, des frontières, des normes, et qui ne pensent qu'au profit. C'est pas caricatural, et là c'est la réalité. Donc là il y a des ruptures radicales à opérer en Europe et en France aussi.
Est-ce que c'est pas un peu désespérant du point de vue d'un élu, un élu européen comme vous, de voir justement les dirigeants européens s'enferrer dans cette logique post-démocratique, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Todd ?
Non, c'est pas désespérant, parce que moi je me bats avec la force de mes convictions, et puis quand même avec d'autres gens, on a des alliés en Europe, et on arrive à gagner des batailles. Mais la principale bataille qu'il faut gagner aujourd'hui, c'est une bataille d'ordre culturel, c'est-à-dire convaincre les populations de rompre avec la construction européenne telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui, sans pour autant rejeter l'idée européenne. Parce que moi, l'idée européenne, elle me passionne, elle m'intéresse. il y a rien de désespérant. Il y a juste, je pense qu'il y a un coup de balai à effectuer par rapport à des, en effet, un cercle dirigeant qui est qui n'est plus vraiment, qui n'est pas dans la raison, qui est dans la foi. Vous voyez, par exemple, quand on reproche à certains commissaires d'être les yeux rivés sur le sacro-saint principe de la concurrence libre et non faussée qui fait tant de dégâts, notamment pour les services publics, ils ne comprennent pas pourquoi, parce que en fait, ce sont des religieux, ce sont pas des dirigeants politiques rationnels. Et c'est bien notre difficulté, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont des croyants, là où il faudrait des gens qui acceptent la délibération collective et le débat public. C'est ça le principe. Mais ça, comme on est des militants laïcs, on va essayer de faire sauter ce carcan idéologique. Voilà.
Est-ce que ce qui freine également notre capacité de débat, notamment sur des sujets comme le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est aussi le fait que la construction européenne s'est faite sur les ruines d'une catastrophe, et dans la peur de revoir les conflits réémerger sur le territoire. Et donc, quelque part, cette relation franco-allemande, elle est aussi, on va dire, teintée d'une forme de croyance. Croyance qu'il ne faut pas en dire du mal, quelque part, parce que c'est risqué de réveiller de mauvais démons.
Oui, d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui avec la communication gouvernementale. Vous avez la ministre des Affaires européennes qui a publié un document que je trouve très, très choquant, où elle fait le lien entre l'étoile jaune sous la Deuxième Guerre mondiale et le drapeau européen avec toutes ces étoiles qui serait le symbole de la paix, et faisant un parallèle grossier en disant en gros si vous n'êtes pas des pro-européens forcenés, alors nécessairement vous êtes partisans d'une régression qui peut conduire à des catastrophes aussi affreuses que ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc une sorte de chantage intellectuel qui est insupportable, et en plus qui part d'un postulat faux. C'est-à-dire que c'est pas en réalité c'est pas l'Europe qui fait la paix, c'est parce qu'il y a la paix qu'on fait l'Europe. Donc c'est un petit peu différent. Après, qu'il faille inlassablement porter un message de paix et d'amitié entre les peuples, ça ressort de l'évidence. Mais justement, sur la relation franco-allemande, moi je pense que l'amitié entre les peuples, elle passe aussi par le fait de se dire la vérité, d'assumer ses différences et de pas hésiter à construire des rapports de force. Or justement, on est tellement tétanisé par les médias mainstream, par les intellectuels mainstream aussi, qui nous expliquent que si on remet en cause, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette sacro-sainte relation franco-allemande, alors, immonde germanophobe que nous sommes, nous contribuons à la destruction de l'Europe. Mais moi, je crois tout le contraire. Quand on a un ami avec qui on a un vrai désaccord, si on respecte cette amitié, il faut le dire droit dans les yeux. Et il faut pas hésiter, surtout en matière diplomatique, hein, il faut pas hésiter à dire ses désaccords, à désobéir, à créer un rapport de force. On ne le fait pas, et ça fait au moins 25 ans que les élites françaises, pour de bonnes et mauvaises raisons, abdiquent, en tout cas renoncent à ce devoir de dire la vérité et ce devoir d'assumer des positions qui sont parfois contraires à celles des Allemands. Mais voilà, des pays, c'est des valeurs, mais c'est aussi des intérêts. Il se trouve que par moment, nos intérêts divergent. Là, c'est le cas sur les questions économiques et sociales. Bah, assumons-le et essayons de trouver des compromis. Mais le compromis, ça peut pas être seulement, parce que c'est un peu ça là, aujourd'hui la tendance, c'est donne-moi ta montre et je te dirai l'heure. Alors c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, outre ces considérations horlogères, vous aurez constaté la référence au référendum extrêmement récurrent, lui aussi, dans l'actu. Et tout prochainement, dans Programme B, on consacrera un épisode à un référendum qui a bouleversé notre façon d'appréhender la politique et l'Europe de manière durable, celui de 2005. Merci à Emmanuel Morel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, @binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.